Vous écoutez
RMC.
Il est 6h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Semaine de tous les dangers pour les agriculteurs qui pourraient bien perdre leur récolte à cause de la vague de froid. On sera dans la Loire dès le début de ce journal. Kenji Girac tiré d'affaire après sa blessure par balle. Le chanteur parle d'une erreur de manipulation. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Et puis le gouvernement qui reprend la main sur l'assurance chômage et sa main ne va pas trembler pour durcir un peu plus les conditions pour les chômeurs.
Nous venons donc de passer la nuit la plus froide de cet épisode hivernal qui frappe la France.
Avec des températures comparables à celles d'un mois de février et ça va durer jusqu'à la fin de la semaine. Du froid et des gelées à certains endroits qui sont autant de menaces pour les agriculteurs. Depuis plusieurs jours, ils tentent le tout pour tenter de sauver leur récolte. Vincent Chevalier, vous êtes en direct ce matin de Saint-Paul en Jarret dans la Loire chez un producteur de pommes, de poires et de cerises menacé par une nuit qui a été, on peut le dire, glacée.
Oui, le soleil n'est pas encore levé ici et cette nuit, ce matin, la température est descendue comme prévu au milieu des vergers, aux alentours de 1-2 degrés, de quoi donner des sueurs froides aux arboriculteurs de la région comme Michael Mazenot, avec qui je suis. Bonjour, vous avez 25 hectares de pommiers, poiriers, cerisiers, alors comment s'est passée la nuit ?
Bonjour. Alors, comment s'est passée la nuit ? Eh bien, plutôt bien. Alors, une nuit stressante puisque c'est une nuit de gel, mais plutôt bien parce que l'alarme n'a pas sonné, donc pas eu besoin de se sortir en courant du lit.
Mais c'est pas fini. C'est ça un petit peu le problème.
Mais c'est pas fini puisque la séquence de froid est prévue pour durer jusqu'à vendredi, donc encore quelques nuits à attendre et à stresser un petit peu.
Et à croiser les doigts, merci beaucoup. Effectivement, les températures ne devraient pas remonter avant le week-end prochain. La prudence est donc de mise chez les professionnels de la Loire.
Vincent Chevalier en direct de la Loire pour RMC. Il est 6h32, une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac sur une aire de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes, hospitalisé à Pessac. Il sera interrogé par les enquêteurs dès que son état le permettra. Pour l'heure, il a simplement déclaré s'être blessé tout seul avec une arme achetée la veille sur une brocante. Dans le Nord, à Grande-Synthe, les suites de l'enquête sur la mort du jeune Philippe avec le placement en garde à vue hier d'un troisième adolescent, le cousin de l'un des mis en cause, lui-même victime d'une agression. Vendredi soir, il avait été retrouvé nu en sang au beau milieu d'une zone industrielle et il est aujourd'hui suspecté, Lucille Pascanet, d'avoir participé au piège tendu à Philippe.
Oui, dès le début des investigations, les enquêteurs recherchaient un potentiel troisième agresseur après l'interpellation de deux mineurs, puisqu'un témoin affirmait que Philippe avait été frappé par trois personnes qui lui auraient dérobé son portable avant de le laisser pour mort. L'un d'eux a avoué en garde à vue avoir tendu un piège, un guet-apens sur un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Ils sont depuis en détention provisoire. Aujourd'hui, les enquêteurs suspectent donc le cousin du principal mis en cause d'être le dernier agresseur. Cet adolescent de 15 ans, victime d'une agression à son tour ce week-end, avait été hospitalisé vendredi. Il est désormais en garde à vue. C'est chez lui, à Grande-Synthe, que le tout premier suspect de 14 ans avait été arrêté mercredi, le lendemain du décès de Philippe.
Lui sera jugé cet après-midi par le tribunal correctionnel de Paris pour menace de mort sur Internet. Un homme de 26 ans accusé d'avoir ciblé le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Proviseur qui a dû quitter ses fonctions pour des raisons de sécurité après avoir demandé à une élève de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement. Il est 6h34, chose promise, chose due. Le gouvernement reprend la main sur l'assurance chômage. Le ministère du Travail l'a annoncé hier. Conséquence de l'échec des négociations avec les partenaires sociaux, mais le gouvernement y trouve son compte, Cyprien Pézeril, puisqu'il va pouvoir durcir les conditions d'accès au chômage.
Le gouvernement l'assure, cet échec est un crève-cœur, mais il va maintenant reprendre la main. Sinon, à partir de juillet, les chômeurs ne seront plus indemnisés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir de cette date, la convention actuelle prendra fin. Il faudra donc de nouvelles règles. Et justement, quelles règles ? Eh bien, le ministère du Travail le jure. La feuille est blanche, rien n'est décidé, les partenaires sociaux seront consultés. Mais en réalité, le cadre est déjà bien fixé. Gabriel Attal défend un nouveau tour de vis, avoir travaillé plus de mois pour pouvoir toucher le chômage. En mars, il évoquait aussi une durée d'indemnisation raccourcie. 18 mois aujourd'hui, ce pourrait être réduit, mais pas en dessous de 12. Enfin, seule limite que doit respecter le gouvernement, que les chômeurs restent mieux protégés quand la situation économique est mauvaise et inversement quand elle est bonne. Le contenu précis de ce nouveau décret sera connu début juin.
Et vous êtes nombreux à nous appeler ce matin, vous continuer à composer le 32-16. On va en débattre tous ensemble dans un instant. Le gouvernement qui accélère. Y a-t-il urgence, selon vous, à serrer la vis, à durcir les conditions d'accès au chômage? Est-ce que, selon vous, ça peut permettre de forcer les chômeurs à reprendre un emploi, ou est-ce que c'est une forme de stigmatisation? Le débat, à vous de nous dire dans un instant au 32-16.
Une négociation qui a, elle, abouti, celle entre les syndicats et la direction de la SNCF sur les fins de carrière. Accord signé hier qui éloigne la menace de la grève sur les ponts de mai. On y revient avec Manu Le Chypre. En revanche, préparez-vous à une journée noire jeudi dans les aéroports avec une nouvelle grève des contrôleurs aériens. Là, les négociations ont échoué. Et puis un mot de l'autoroute A13 qui restera fermée au moins jusqu'au 1er mai entre le périphérique parisien et Vaucresson. Il est 6h35, un club de boulistes poussé vers la sortie. Le club va devoir déménager du boulodrome qu'il occupe à Paris depuis près de 50 ans dans le 18e arrondissement. La mairie veut le récupérer pour en faire un espace vert avec des chèvres, des poules, mais plus de boules. C'est l'hôtel mitoyen qui se chargera de son entretien. Sauf que le club de boulistes n'a pas l'intention de décamper, Romain Poiseau.
Des toiles de tente en bordure de terrain de pétanque. Nathalie, jeune retraitée, est prête à dormir ici toutes les nuits s'il le faut pour défendre son jardin d'Éden.
Mais ici, c'est ma famille. Je ne vais pas aller marcher seule dans les rues, je ne vais pas aller mettre dans un café. Je vais venir ici.
Jean-Charles, lui, ne campera pas sur le terrain de boule.
Non, moi, je ne campe plus. Moi. J'ai campé quand j'étais louveteau.
À 89 ans, il a vu la création du club de pétanque en 1971.
Pour le restant de mes jours, j'espérais pouvoir continuer à jouer au boule. Rencontrer les copains, ça me fait mal au cœur.
Le Conseil de Paris a confié pour 12 ans cet espace à un hôtel particulier mitoyen pour en faire un parc modèle en matière de biodiversité, ouvert à tous. On se trompe de combat pour Éric Elmosnino, comédien et bouliste.
Il n'y a pas besoin de rajouter des chèvres et de poules. Il existe déjà cet endroit de partage et de convivialité. J'ai l'impression que maintenant, Paris, c'est plus une ville où tu peux vivre. C'est une ville, c'est un musée, quoi.
De son côté, Oscar Contet, l'hôtelier de luxe, défend la volonté de créer un espace ouvert à tous.
C'est quoi la solution? Qui privatise l'endroit? Qui continue à se mettre des caisses pas possibles et que ça dégénère à 2h du mat?
Et il l'avoue, l'attractivité du parc aura pour effet d'augmenter de 30% sa clientèle pour le déjeuner.
Ça, c'est un endroit assez incroyable, au pied des escaliers de Montmartre, un peu hors du temps, qui n'a pas
je
bougé.
Je sens que vous faites partie du club de boulistes, Sébastien.
J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, venez nous dire au 32-16 si vous êtes choqué du fait que la mairie de Paris veut fermer ce club de boulistes qui est très, très ancien. On passe au Quintet, Élise. Le Quintet à 13h55 aujourd'hui sur l'hippodrome de Compiègne.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Quelle Story, et l'outsider, c'est le 9, Attaque Massive. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Élise Dangean pour le journal sur RMC, il est 6h38.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et on vous attend au 32-16 pour réagir à ce nouveau tour de vis promis sur l'assurance chômage. Ce sera pour le 1er juillet, le gouvernement qui reprend la main et qui accélère de nouvelles règles pour durcir les conditions. Est-ce qu'il y a urgence, selon vous, à serrer la vis? Est-ce que cela va permettre de forcer les chômeurs à reprendre un emploi, ou est-ce que c'est une forme de stigmatisation? Est-ce que c'est une piste, finalement, d'économie, mais en s'en prenant aux plus faibles? Qu'est-ce que vous en pensez? On va en débattre tous ensemble. Vous avez la parole au 32-16. On vous attend avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Martin, avec toute l'équipe d'Apolline Matin. A tout de suite.
RMC Police Justice.
D'abord, l'histoire du jour, repérée par le service police justice d'RMC ce matin. C'est avec vous, Guillaume Bié. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez l'histoire de cette jeune femme condamnée à de la prison pour avoir littéralement harcelé le chanteur Harry Styles.
Quelques notes que vous reconnaissez immédiatement, issues du troisième album de Harry Styles, des notes qu'une Brésilienne de 35 ans a, semble-t-il, beaucoup trop écouté. Cette jeune femme, totalement sous le charme du chanteur, a complètement perdu la raison au point de harceler l'artiste. Elle lui a envoyé, tenez-vous bien, 8000 cartes en l'espace d'un mois. 8000. Alors, elle ne les a pas toutes rédigées à la main, non. La plupart ont été commandées en ligne, puis expédiées à son adresse, mais certaines autres étaient bien manuscrites. Elle lui a aussi adressé des faire-part de mariage, et la jeune fan est même parvenue à lui faire remettre en main propre deux de ses fameux courriers. Sans rien dire à sa famille, elle a quitté le Brésil pour s'installer quelque temps dans dans une auberge de jeunesse de l'ouest de Londres pour s'approcher encore un peu plus de son idole. Bref, la justice britannique s'est saisie de l'affaire. Au procès, la jeune femme a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 3 mois de prison et elle n'est pas prête de rencontrer Harry Styles puisque les juges lui ont interdit de le contacter et interdit d'assister à n'importe quel événement en présence du chanteur pendant les 10 prochaines années. Mais elle peut toujours écouter sa musique.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h42, vous êtes bien sur RMC et RMC Story.
À vous de nous dire.
Et toute l'équipe est là, toute l'équipe d'Apolline Matin. Amélie Rozig, bonjour Amélie, Manu Le Chypre, Nicolas Poincaré.
Bonjour Sébastien.
À tous les deux. Et Martin Bourdin, bien sûr. On vous attend au 32-16. Ce sera donc pour cet été. Gabriel Attal avait prévenu, il y aura bien une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Durcissement des conditions. On a appris que cette réforme sera mise en œuvre dès le 1er juillet. Alors, y a-t-il urgence à serrer la vis? C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16. Le gouvernement qui répète qu'il s'agit de favoriser le retour rapide à l'emploi des chômeurs indemnisés au moment où ce taux de chômage repart à la hausse. Il y a plusieurs pistes sur la table, notamment réduire la durée d'indemnisation. Écoutez ce que disait Gabriel Attal la semaine dernière, c'était sur BFM TV.
Ce qui m'importe, c'est moins de faire bouger les règles pour celui qui a travaillé toute sa vie et qui, là, se retrouve avec un licenciement économique, un accident, qui veut pouvoir évidemment compter sur l'assurance chômage pour ensuite pouvoir retrouver un emploi et donc avoir une durée d'indemnisation suffisante pour ça, que des situations où on voit qu'il y a un système qui s'est organisé pour des multiplications de petits contrats, des contrats courts, entre lesquels on bénéficie du chômage. Je travaille quelques mois, je touche le chômage, je retravaille quelques mois, je touche le chômage.
C'est l'objet de la première réforme, ça.
C'est plutôt ça, ce sur quoi moi je veux travailler. Donc ça oriente plutôt vers les conditions d'affiliation. Maintenant, les trois possibilités sont ouvertes.
Bon, Gabriel Attal qui, en clair, dit que les chômeurs en profitent parfois un peu. Alors, est-ce qu'il y a urgence à serrer la vis? C'est la question qu'on vous pose. Tiens, Karim est déjà là au 32-16. Bonjour Karim.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bienvenue Karim. Où est-ce que vous êtes? D'où vous nous appelez?
Je vous appelle de l'Aube.
Dans l'Aube. Au travail ce matin?
J'y suis, ouais. Je commence à 7h.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Grutier. Grutier en intérimaire, je précise.
Intérimaire. Qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous venez d'entendre dans la bouche de Gabriel Attal? En gros, des chômeurs qui en profitent un peu, qui alternent parfois des périodes de CDD avec des périodes de chômage.
Moi, je suis totalement pour. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même le pays organisateur des JO. Donc, les chômeurs qui me disent « il n'y a pas de boulot », j'ai envie de leur dire « arrêtez quoi, arrêtez ». Aujourd'hui, on est en 2024 quand même. On a la chance de pouvoir postuler sur des millions de plateformes via un CV, via un clic, vous envoyez un CV. C'est plus comme dans il y a 10 ans en arrière où on devait se déplacer, s'habiller correctement pour aller postuler. Donc, ceux qui me disent « il n'y a pas de travail, j'y crois pas. Moi, vous savez, je suis intérimaire et je travaille dans les grues. C'est un métier assez spécial où, si vous n'avez pas d'expérience, c'est compliqué d'avoir une mission. Donc, moi,
et vous n'avez jamais de mal à enchaîner les missions?
Tout simplement, c'est de l'anticipation. Ça veut dire que moi, quand j'arrive en fin de chantier, j'ai un démontage de grues dans 2 mois, j'anticipe en fait. Je vais postuler, je vais aller voir d'autres sociétés, je vais contacter des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Voilà, il faut y mettre du sien. J'attends pas après le Pôle emploi qui m'appelle pour me dire voilà, carrément, on a une mission pour toi, ou j'attends pas après une intérim qui m'appelle pour me dire on a du boulot.
Donc, Amélie, maintenant, moi j'en ai.
Oui, mais Karim, je suis très heureuse pour vous et vous faites probablement un métier où vous pouvez anticiper, mais je rappelle quand même qu'on avait ici à l'antenne il y a quelques semaines un de nos auditeurs qui est commercial, qui n'arrête pas de postuler depuis plus d'un an dans un secteur dans lequel il a toujours travaillé, et en fait il ne trouve pas de travail, et pour le coup il a beau envoyer des CV, etc., et il a 40, je crois, encore. Plus de 45 ans.
Il faut que ça corresponde aussi à sa qualification.
Ouais. Il ne sait rien faire d'autre. Alors tant mieux, Karim. Si vous avez un métier porteur, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas le cas de tous et ce n'est pas toujours évident de faire autre chose.
Je suis d'accord avec vous, je ne suis pas contre. Moi, vous savez, dans les 10 ans d'expérience que j'ai dans ce métier-là, il y a un moment, il n'y avait pas de mission, il y avait une crise dans le bâtiment où j'étais obligé de me reconvertir. C'est pas pour ça que je suis resté dans les grues. Je me suis retrouvé dans une usine à emballer des cartons pour. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom du groupe, mais voilà, je travaille dans une usine.
Vous étiez prêt à accepter.
Voilà,
d'ailleurs.
C'est ça. J'étais obligé. j'étais obligé de me reconvertir. Et c'est même pour moi, pour un confort de vie. Le chômage ne me va pas pour vivre confortablement. Je n'ai pas envie de sortir ma calculette tous les mois.
Vous n'avez jamais dit je vais profiter de quelques semaines de chômage en attendant de récupérer ma mission suivante. Et Manu, vous voulez réagir?
Mais pour tenir compte de ce que dit Amélie et des réformes précédentes qui ont déjà durci les conditions du chômage, il a changé d'avis, Gabriel Attal, puisque là on voit bien dans ce qu'il nous dit la semaine dernière, c'est qu'il était plutôt parti sur une réduction de la durée d'indemnisation. C'est-à-dire on va moins indemniser les chômeurs pour les inciter à retravailler. Là maintenant, ce qu'il préférerait, c'est plutôt durcir les conditions d'obtention du chômage.
Aujourd'hui, il faut travailler plus longtemps.
Il faut avoir travaillé 6 mois sur 2 ans. Lui, il voudrait durcir ces conditions-là.
Ça peut peut-être répondre à cette
nécessité d'enchaîner les contrats courts. Et puis surtout, ça a un autre énorme avantage pour lui, c'est que financièrement, ça rapporte beaucoup plus tôt et beaucoup plus.
Oui, parce que les chômeurs ne rentrent pas tout de suite.
Si vous réduisez la durée d'indemnisation, ça se paye, vous gagnez à la fin. Là, les économies, elles se font tout de suite.
Je voudrais qu'on entende Rémi, qui est avec nous aussi au 32-16, dans l'Isère. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Ça vous fait réagir ce que vient de nous dire Karim? En gros, si on cherche, on trouve. En gros, c'est ce que disait Karim.
Non, mais ça, c'est hallucinant. Déjà, c'est absolument faux, parce qu'il n'y a absolument pas autant d'emplois disponibles que de gens qui sont au chômage rémunérés, parce qu'ils ne sont pas tous rémunérés, qu'en moyenne, ils sont rémunérés 1033 euros par mois et qu'il n'y a personne qui se tire les poils du nez à 1033 euros par mois, je vous assure, j'ai été, moi, au chômage. On n'est pas tranquille, on n'est pas zen, on n'est pas là à se regarder les orteils et bouger, je vous assure.
Donc vous trouvez que c'est quoi? C'est une forme de stigmatisation des chômeurs? C'est clairement une raison finalement budgétaire?
C'est honteux et c'est pour gratter toujours sur les pauvres. C'est honteux. Je veux dire, il y a 160 milliards qui partent tous les ans dans des grandes boîtes qui n'ont aucune justification ni contrepartie à donner. On a encore fait payer les pauvres sur les médicaments. On a enlevé l'ISF. Enfin, je veux dire, ce gouvernement, c'est pas la casse sociale, c'est la fracasse sociale.
Ça vous êtes dans quel secteur, vous, Rémi?
Moi, je fais du nettoyage.
Vous faites du nettoyage? Vous avez du boulot, là?
Là, j'ai du boulot, mais j'ai déjà été au chômage, moi.
Ouais. Et vous aviez eu du mal à retrouver un emploi?
Bien, je suis resté au chômage pendant pas loin d'un an et demi. Après, j'ai recommencé comme étant salarié, tout doucement, par petit contrat. Et après, j'ai fait ma propre entreprise. Mais mais si j'avais pas eu là un an et demi de chômage, eh ben j'aurais fait quoi? J'aurais fini SDF.
Ça a été le filet de sécurité. Il y a quand même eu, juste rapidement, Manu, on en parlait hier, des chiffres sur les contrôles de Pôle emploi qui a effectué des contrôles, notamment dans les secteurs en tension pour vérifier que les chômeurs cherchent bien du travail. Il y a quand même un tiers qui ont été épinglés.
Alors un tiers qui ont été, comme on dit à France Travail, redynamisés, parce que bon, ils cherchaient pas exactement. Et il y en a 17% qui effectivement ont été sanctionnés sur les contrôles. Ce qui fait, si on prend les chômeurs de catégorie A, hein, c'est-à-dire ceux qui ont quasiment pas travaillé au cours du mois, ça fait potentiellement effectivement 500 000 personnes qui se décarcasseraient peut-être pas trop pour trouver du travail ou qui n'arrivent pas à en trouver.
Sur 3 millions de chômeurs.
Avec ça que l'État sera en faillite.
Merci à tous les cas, à tous les deux. Rémi, Karim, merci pour vos appels. Le débat continue au 32-16, bien sûr. Et on lit tous vos messages sur l'application RMC. On en reparlera tout à l'heure, notamment à 8h10, avec le négociateur du syndicat Force Ouvrière qui a négocié sur l'assurance chômage. Lui estime que c'est un coup de force du gouvernement. Ce sera son parti pris tout à l'heure à 8h10. Il est 6h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, racontez-nous, Nicolas Poincaré.
Et je vous raconte l'histoire surprenante d'un piratage industriel. Des vraies fausses Citroën sont fabriquées en Russie.
Et on n'a pas osé vous en parler, mais Martin Bourdin va le faire quand même.
Ouais, je vous dévoile un moyen assez simple finalement de savoir si on vous trouve beau ou pas.
À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline, matin, ça continue, 6h52. Je vous donne les quelques rendez-vous à suivre ce matin à 7h10. Les dernières infos sur l'enquête après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. Beaucoup d'interrogations encore ce matin. Est-ce un accident, comme il semble le raconter? On sera en direct de Bordeaux avec notre correspondant sur place, également avec un spécialiste des armes à 7h10. À 7h20, le 7h20 d'Apolline Matin, bien sûr, ce sera avec Arnaud Demanche, avec Amélie Rosic pour RMC s'engage avec vous.
Ouais, ça vous dit de vivre sans chauffage par 10 degrés, surtout avec le temps qu'il fait là. Ouais, on va parler logements sociaux indécents.
C'est pas le moment. Emmanuel Lechypre.
Eh ben, accord social généreux à la SNCF égale pas de grève au mois de mai et peut-être même pendant les Jeux Olympiques.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas Poincaré, tous les matins, une histoire dans l'actualité. Et ce matin, cette histoire surprenante de fausses Citroën fabriquées en Russie.
Oui, on connaissait les contrefaçons des produits de luxe français, les faux sacs Vuitton, les faux carrés Hermès. Eh bien, voici de fausses Citroën. Des C5 Aircross fabriqués et vendus en Russie. C'est une enquête de Radio France qui révèle ce piratage industriel inédit. Au moment de l'invasion de l'Ukraine en 2022, tous les constructeurs européens ont mis à l'arrêt leurs usines en Russie en raison, bien sûr, des sanctions. Renault a vendu pour un rouble symbolique son usine de la banlieue de Moscou et sa participation dans Astovaz Lada. Mais Stellantis, le groupe qui produit Citroën et Peugeot, n'a pas réussi à se défaire de ses activités en Russie. Il a donc cessé la production de son usine de Kalouga, à 200 km de Moscou. Les 2700 ouvriers russes se sont retrouvés au chômage technique, mais le constructeur français a continué à leur payer leur salaire. On en était là lorsqu'on vient de découvrir que la production reprenait et que des Citroën C5 sortaient des chaînes sans que Stellantis n'en soit informé. Des voitures quasiment identiques à celles produites en France.
C'est assez incroyable. Comment c'est possible ?
Eh bien, parce qu'un groupe mystérieux a repris l'usine, repris les anciens salariés et relancé la production. Et pour cela, il faut bien sûr les pièces que Stellantis ne fournit pas. Mais figurez-vous qu'elles arrivent de Chine après un tour de passe-passe. Le constructeur chinois Dongfeng, qui est le partenaire de Citroën et de Peugeot en Chine, envoie en Russie des kits avec à chaque fois 1700 pièces détachées qu'il suffit d'assembler pour avoir une voiture neuve. Et voilà comment une association russo-chinoise permet de fabriquer des voitures françaises, des fausses vraies voitures près de Moscou.
Presque vraies, hein,
ouais. Stellantis a bien sûr protesté auprès de son partenaire chinois, mais ses protestations, pour l'instant, sont restées lettres mortes.
Et puis les ouvriers savent faire, du coup.
Bah oui,
les ouvriers, ils ont la compétence. Histoire incroyable. Martin Bourdin, maintenant.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Oui, Martin, vous osez quand même ce matin nous dire qu'il vaut mieux être beau pour inspirer confiance.
Et oui, la vie est injuste. Être beau a plein d'avantages, ça on le sait, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est qu'être beau permet de gagner la confiance des autres plus facilement. C'est ce que nous révèle une étude française, s'il vous plaît. Alors, l'expérience était un peu complexe, je vais pas rentrer dans tous les détails. L'idée, c'était de demander à une personne si elle faisait confiance à une autre pour lancer un dé et éventuellement gagner de l'argent. La beauté de chaque visage était également notée, évaluée à chaque fois. Et le résultat, eh bien, c'est que plus une personne était considérée comme belle, plus elle inspirait confiance et plus on lui donnait la possibilité de lancer ce dé pour gagner de l'argent. Alors, je sais pas si les gens que vous côtoyez autour de la table ont tendance à vous faire confiance ou pas. Peut-être que de ça, vous pouvez en déduire si on vous trouve beau, belle ou pas. Moi, bon, Amélie Rosic, donc, est belle, visiblement, du coup, pas carré.
Pour lancer le dé, je choisis Amélie. Tout de suite, je donne mon dé à Amélie pour qu'elle le lance.
Et que je gagne de l'argent pour toi, bah, évidemment.
Mais oui, mais on se fait confiance ici.
Non, moi, j'ai l'impression qu'on fait une confiance démesurée par rapport à au critère physique. Donc, il n'y a pas que ça, quand même.
Il n'y a peut-être pas que ça.
Allez, la météo, dans un instant, très froide encore ce matin. Et puis, le journal de 7h. A tout de suite sur RMC.
C'est jusqu'à 9h.
Apolline Matin.